À tout de suite.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
France Inter, première radio de France.
14h sur Inter. Les dernières informations, Laetitia Gaillet.
Et elles arrivent à l'instant, quand mon ordinateur sera allumé. Voilà, j'assume, je dis tout. On y va. Il faut rester digne. L'appel aujourd'hui du maire de Châteauroux après la mort samedi de Mathis, l'adolescent, a été tué à coups de couteau lors d'une bagarre avec un autre adolescent. L'auteur des coups doit être présenté à un juge cet après-midi. Sa mère également. Le maire d'hiver droite de Châteauroux doit s'entretenir avec le préfet de l'Indre. Il s'agit de décider de mettre en place ou non une cellule psychologique pour les témoins de la bagarre. Sur ces sujets de violence de mineurs, Gabriel Attal débute lui aujourd'hui ses consultations avec les groupes politiques sur ces propositions destinées justement à endiguer cette violence. Le Premier ministre recevra à 17h30 les représentants de la France Insoumise, viendront ensuite ceux de la majorité. Le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, sera lui reçu jeudi, mais pour la tête de liste du RN aux européennes, les choses sont claires, c'est un nouveau drame lié à la politique migratoire. Même tonalité chez les Républicains, aucune tolérance, a dit Eric Ciotti sur X. C'est la prison et l'avion. Le motif de la rixe, lui, n'est toujours pas connu. Une source proche de l'enquête affirme qu'elle n'a rien à voir avec l'islamisme ou un caractère religieux, et ce même si le suspect interpellé est d'origine afghane. L'activité opératoire reprend progressivement aujourd'hui au CHR de Metz-Thionville. Elle était suspendue depuis le 20 avril dernier, exception faite des urgences après un problème dans le processus de stérilisation. La Russie prend le contrôle de la filiale russe du groupe italien Ariston. L'ambassade de Russie en Italie justifie aujourd'hui sa décision. C'est une réponse aux actions hostiles et contraires au droit international menées par les États-Unis et d'autres États étrangers. Sur la page Facebook de l'ambassade, on peut lire que les autorités italiennes ont sacrifié les véritables intérêts nationaux de la République pour participer à des aventures géopolitiques anti-russes, stériles et dangereuses. Au même moment, les ministres français, allemands et polonais chargés de l'Europe réunis dans les Yvelines lancent eux un appel. Il faut redoubler d'efforts pour se prémunir des opérations de désinformation menées par des acteurs étrangers visés la Russie. Selon eux, tous les pays de l'Union européenne sont touchés. France Inter, 14h03.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela ? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens ? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Là, j'ai pas besoin de l'ordinateur pour le dire, c'est la Terre au carré. Mathieu Vittard et Camille Cronier, bonjour à tous les deux.
Eh ben bonjour, Laetitia Gaillet.
Ça va bien.
Mais oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour la Terre, ici Odile du Tarn-et-Garonne. Oh, c'est vachement intéressant ce qu'il dit votre petit gars là sur les palmiers à huile et sur les ONG. Alors, je pense que vous avez déjà dû en faire la promotion de ce film La promesse de Édouard Bergeon. C'est un très bon réalisateur et il fait des beaux films. Allez, salut et merci la Terre.
Bonjour, c'est Jérôme de Toulouse. J'ai écouté attentivement Sylvie Olitreau sur l'émission consacrée à la désobéissance civile et elle suggérait que le mouvement des écureuils n'était pas du tout un mouvement radicalisé. J'invite tous les auditeurs et Sylvie à lire La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques de Gérald Bronner, hein, qui est lui aussi sociologue. Ma question, c'est que si Thomas Braille était décédé de sa grève de la soif, ce qui n'est pas du tout radical comme activisme, hein, bien sûr, ses amis et ses soutiens n'auraient pas du tout cherché à venger sa mort en disant que c'est la France ou que c'est un tel qui l'aurait tué. Voilà, c'est pas du tout radical. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Régine de Rennes.
encore un concert en zone protégée à Rennes ce week-end. C'était le Festival Techno au Parc Saint-Cyr dans une zone refuge LPO en pleine période de nidification. Des décibels, des lumières comme en plein jour et 5000 personnes. Les conséquences sur la mortalité des oiseaux et les naissances sont catastrophiques. Alors la mairie de Rennes, merci de ne plus autoriser les concerts de plein air dans des zones protégées qui déjà se réduisent comme peau de chagrin à Rennes. Merci, bonne semaine à tous.
Bonjour, c'est Paul de Lectour d'Angers. Je viens d'écouter les infos sur France Inter. Je suis content de la nouvelle. Ils ont décidé, les hommes politiques, de prendre un autre type de classement. Maintenant, on va se baser pour la note de la France sur le nombre de coccinelles, le nombre de bourdons, le nombre de salamandres, le nombre de gypaètes barbus, de hérissons, de vers de terre. Et ainsi, on va voir quel est le pays qui fait le meilleur score et qui est le plus vertueux. Et on va vivre des vies formidables. C'est super ce qu'ils ont décidé maintenant, les hommes politiques.
Bonjour, Tom de Angers. Je suis en voiture avec mes deux fils et on écoute en podcast l'émission sur la grotte de Cosquer, ce qui permet au plus grand des deux de faire un lien avec ce qu'il a appris à l'école, puisqu'ils l'ont évoqué dans leur classe. Et le plus petit des deux bonhommes m'a dit que je devais appeler et laisser un message sur le répondeur. Donc c'est chose faite. Merci à vous, très bonne émission.
Et merci au plus petit des deux bonhommes donc de vous avoir soufflé cette idée. Tom d'Angers, 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. Pourquoi l'écologie ne parvient-elle toujours pas à incarner une véritable force transformatrice et un projet pleinement politique pour sauver la planète ? Si une large part de la population est convaincue de la nécessité d'une transformation majeure, force est de constater que l'écologie échoue toujours à fédérer, voire même qu'elle divise de plus en plus en suscitant autour d'elle une polarisation grandissante. Avec notre invité, nous allons explorer les raisons de cet échec et réfléchir surtout à la façon de mettre en place une véritable transformation de nos sociétés en faveur d'un monde plus écologique. C'est l'objet d'un livre, Écolo mais pas trop, les classes sociales face à l'enjeu environnemental qui paraît aux éditions Raison d'agir et dont vous êtes l'auteur Jean-Baptiste Combi. Bonjour.
Bonjour Mathieu Médard.
Merci d'être avec nous, vous qui êtes sociologue, maître de conférences et chercheur au Centre Nantais de sociologie. Vous allez nous expliquer comment les protagonistes de l'écologie pourraient mobiliser suffisamment pour amorcer un changement en profondeur. On en discute avec vous, les auditoristes également qui arrivent avec leur message sur la page de l'émission. Et sur le réseau social, on se retrouve dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec un méga spectacle lumineux dans les Pyrénées-Orientales. Mais la contestation monte là-bas. Ça sera mardi prochain normalement. Et face au risque de pollution lumineuse dénoncé par beaucoup, eh ben, c'est en train de se transformer en sacré merdier.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Adèle Caglar à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour la première fois, 195 pays viennent de valider à l'unanimité un accord contre le réchauffement climatique. À la mi-journée, une version finale de l'accord est présentée. François Hollande est là.
Il est rare d'avoir dans une vie l'occasion de changer le monde. Vous l'avez, cette occasion-là, de changer le monde. Saisissez-la pour que vive la planète, vive l'humanité. Et vive la vie.
La voix de François Hollande en décembre 2015 sur France 2. Écolo mais pas trop, les classes sociales face à l'écologie. C'est donc cet ouvrage que vous publiez, Jean-Baptiste Combi, aux éditions Raison d'agir, avec votre regard donc de chercheur en sociologie. En quoi cette COP21, parce que j'ai choisi de commencer avec ça, a marqué un tournant au fond dans l'histoire politique de l'écologie, comme vous le racontez?
Oui, bah c'est plaisant de voir que vous débutiez l'émission là-dessus, parce que c'est aussi là-dessus, sur ce moment-là, que je démarre mon livre. Parce que effectivement, cette COP21 à Paris en 2015, comme vous le dites, marque un tournant dans le sens où elle va être présentée comme la COP des solutions. C'est l'idée que, il y a l'alerte maintenant, elle est admise, elle est entendue, et que maintenant il faut trouver des solutions pour faire advenir. À l'époque, on parlait beaucoup de société post-carbone ou d'économie décarbonée.
Bon. Avec les décideurs politiques et économiques, finalement, qu'on mobilise à ce moment-là très fort.
Très fort. Et puis les scientifiques aussi, puisque 6 mois avant la COP21 à Paris, tous les membres du GIEC, ou une grande partie, se réunissent au siège parisien de l'UNESCO. Et c'était assez inédit. Et donc, moi, j'avais commencé mes observations à ce moment-là. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on a vu à ce moment-là la prise de pouvoir au sein des sciences du climat des économistes au détriment des climatologues, d'une certaine façon. Et 2015, c'est aussi le moment où je publie mon précédent livre, qui s'appelait La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public, où je montrais que la question climatique était individualisée et dépolitisée. Et quand arrive la COP21, je me dis, bah zut,
c'est le contraire. Exactement.
Zut, ou tant mieux, les choses se politisent. Ouais. Donc ça y est, on va assister à une transformation de la société. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que oui, on mettait en branle plein d'énergie pour transformer la société, mais sans transformation sociale, c'est-à-dire sans toucher à ce qui fait le cœur d'une société, c'est-à-dire les hiérarchies sociales et les rapports de domination, de pouvoir qui en résultent entre les différentes catégories sociales.
Donc quand François Hollande dit « on a une occasion là, finalement, de changer le monde », l'occasion, elle est ratée selon vous ?
L'occasion, selon moi, elle est ratée parce que il aurait fallu, pour la réussir, sans doute commencer par mettre les sciences sociales, c'est-à-dire les connaissances scientifiques du monde social, au cœur du projet écologique. Ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'est toujours pas le cas. Bon. Alors, il faut aussi dire que les sciences sociales ont mis du temps à se saisir pleinement de la question environnementale, notamment la sociologie. Et le livre que je produis, il est aussi issu d'échanges que j'ai avec de nombreux collègues. Et avec un certain nombre de collègues, on initie une dynamique structurante de recherche portant sur l'écologie à partir d'une sociologie générale. L'an dernier, il y a un an, on a organisé deux grandes journées d'études à l'École normale supérieure qui a permis de montrer le foisonnement des travaux qui pensent l'écologie depuis la sociologie générale, c'est-à-dire depuis les classes sociales, depuis ce qu'on appelle les socialisations. Et ça, c'est extrêmement important.
Donc l'échec aujourd'hui pour vous des politiques écologiques, c'est uniquement lié au fait qu'on n'a pas fait suffisamment appel aux sciences sociales ?
Pas uniquement, mais ce qu'on observe aujourd'hui, pour le dire les choses simplement, c'est que d'une part, première chose, l'écologie, ça met en jeu une concurrence pour faire advenir de nouvelles sociétés. Et une concurrence assez forte, et qui se structure autour de deux grandes philosophies du changement social. Puisqu'aujourd'hui, finalement, éduquer à l'environnement, c'était éduquer à la nature, à la biodiversité, à la botanique, etc. Aujourd'hui, il faut éduquer à l'écologie. Et éduquer à l'écologie, c'est finalement enseigner la transformation sociale. Et aujourd'hui, cette vision de la transformation sociale, dont je le disais, elle est structurée par deux grandes philosophies du changement social qui dominent dans la galaxie écologique. La première prétend transformer la société sans transformation sociale. Et il s'agit d'écologiser sans refondre les cadres fondamentaux de la vie sociale. Et ça aboutit à faire une politique de classe fondée sur des dispositifs technologiques. Le photovoltaïque, j'y reviendrai sans doute. Tout ce qui est l'agriculture de précision, donc tout ce qui est aussi performance énergétique des bâtiments ou des moyens de transport. Et ça, c'est l'écologie la plus répandue, celle qui est la plus puissante. C'est l'écologie dominante, qui est l'écologie des classes dominantes. Mmh. C'est le capitalisme vert. Et puis, il y a une autre philosophie qui s'oppose, en tout cas médiatiquement, à celle-là, mais dont j'ai montré qu'en fait l'opposition était toute relative, une écologie qui prétend que les alternatives écologiques, qui essaiment, qui bourgeonnent, seraient comme spontanément contagieuses, qu'elles se répandraient d'elles-mêmes, qu'elles feraient tache d'huile, et que d'elles-mêmes, elles parviendraient à éroder les logiques sociales du capitalisme.
Et ça marche pas.
Dans les deux cas, l'ordre social, en fait, se trouve reconduit, c'est ce que je montre dans le livre.
Alors, c'est effectivement l'enjeu des classes sociales face à l'enjeu environnemental, on va en reparler dans un instant, puisque là, vous venez finalement nous faire un bon résumé de vos travaux et de votre ouvrage, Jean-Baptiste Combi. Est-ce que pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et ne faire que le bilan d'échecs politiques environnementaux ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses à reconnaître sur des avancées, par exemple, à l'échelle de l'Europe, sur au moins l'objectif de la neutralité carbone ? Est-ce qu'on peut pas quand même dire qu'il y a quand même des choses qui sont en route, même si, certes, elles peuvent paraître insuffisantes? Quelle est votre position là-dessus? Tout est acheté?
Non, tout n'est pas acheté. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais quand on regarde les effets sociaux de ces politiques, on s'aperçoit que c'est contre-productif. Je vais vous prendre un exemple très concret et d'actualité. On voit que les élections européennes s'annoncent comme celle d'une débâcle écologiste, des écologistes, et comme le succès d'une sorte de populisme anti-écologique. Bon, il me semble que les résultats des enquêtes que j'expose dans mon livre permettent de voir les choses un peu différemment, et que le rejet de l'écologie auquel on assiste aujourd'hui ne doit pas être assimilé à une indifférence envers la destruction du vivant. En fait, il s'agit bien plutôt de rejeter pour une partie croissante de la population, une écologie qui, justement, avance sans nous permettre vraiment d'être écologiste, ce qui avance sans impacter une véritable transformation des rapports de pouvoir entre les classes sociales. Et je pense que c'est ça qui crée le terreau d'un rejet assez perceptible ces derniers mois de l'écologie.
Alors, pourquoi est-ce que vous dites précisément que c'est d'abord une lutte des classes aujourd'hui qui est à mener, et comment il faut entendre d'ailleurs ce terme de lutte des classes ? Est-ce que c'est au sens marxiste du terme, ou est-ce que ça s'est quand même largement modernisé depuis ?
Ça s'est modernisé depuis, même si l'analyse marxiste n'est pas obsolète. Moi, je m'appuie sur une analyse des classes sociales qui poursuit en fait le travail de Pierre Bourdieu. Je publie mon livre dans la maison d'édition qu'il a créée dans les années 90,
Raison d'agir, c'est son nom.
Et Pierre Bourdieu disait qu'il s'agissait d'offrir des instruments de compréhension, donc de liberté.
Ouais. Mais c'est quoi la lutte des classes aujourd'hui, au XXIe siècle, alors exactement ?
Ben, c'est une lutte pour le pouvoir.
Parce que vous dites que c'est la condition pour réussir justement la transformation profonde de l'écologie aujourd'hui. Mais c'est quoi la lutte des classes, alors ?
Ben, c'est une lutte pour le pouvoir de définir comment on s'intègre et on est reconnu, valorisé dans le monde social. Et aujourd'hui, pour s'intégrer et être reconnu dans le monde social, il faut être écolo, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est de bon ton d'être écolo, de faire attention à un certain nombre d'impacts de nos faits et gestes sur l'environnement, mais dès que lorsqu'on est trop écolo, eh bien, on devient excessif, on devient radical, dogmatique, et c'est justement l'image qui est renvoyée aux alternatifs radicaux, hein, aux militants écologistes alternatifs radicaux, qui incarnent l'écologie de trop. Et comment faire pour que ceux qui incarnent l'écologie de trop, finalement, finissent par incarner l'écologie telle dont on a besoin.
Et il y a aussi, c'est ce que vous montrez, des initiatives de la part de certaines classes qui ont l'impression, au fond, d'avoir aussi des attitudes, des comportements écologiques, mais qui, en réalité, montrent énormément de contradictions et annulent, finalement, les effets de leurs efforts, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est un trait caractéristique de l'écologie que l'on rencontre dans les classes dominantes, qui est caractérisée par trois dimensions, la modération, la pondération et la compensation. Et justement, la compensation, c'est d'ailleurs quelque chose qui est au cœur des politiques du capitalisme vert, c'est la neutralité carbone. C'est on fait des efforts d'un côté, mais ça nous autorise à polluer un peu de l'autre. Bon. Et en fait, mes enquêtés, issus des classes dominantes, qu'il soit...
Donc vous avez rencontré une centaine de personnes à peu près, c'est ça ? Vous avez mené des entretiens sur 100 personnes, en gros ?
Oui, voilà, à peu près, d'entretiens
avec
approfondis.
Un panel assez représentatif de la société ?
Voilà, où ce qui m'intéressait, c'était de regarder non pas seulement leur opinion, mais vraiment les structures de pensée avec lesquelles ils appréhendaient la question environnementale. Et puis j'ai affiné les choses en allant regarder au niveau de ce qu'on appelle les fractions de classe, et notamment au sein des classes dominantes, on va parler de la bourgeoisie culturelle, de la bourgeoisie économique. Tous les travaux se focalisent beaucoup sur la bourgeoisie culturelle qui ne ménage pas ses efforts pour mettre en avant sa bonne volonté environnementale.
Qui est la bourgeoisie culturelle, pour comprendre, par exemple, qui l'incarne aujourd'hui, pour avoir une espèce d'image?
La plupart des intervenants sur France Inter.
D'accord, ok, pourquoi pas, ouais.
Moi, je suis, en tant que maître de conférence à l'université, j'appartiens à la bourgeoisie culturelle. La bourgeoisie culturelle, pour maintenir son rang dans la classe dominante, elle doit bien consommer. Donc déjà, elles ne se sont pas très à l'aise pour aller faire la morale aux membres de la bourgeoisie économique. Et les membres de la bourgeoisie économique, dont on pourrait imaginer qu'ils n'ont rien à faire de l'environnement, pas du tout. Ils en sont très soucieux et ils se saisissent justement de tous les dispositifs fiscaux, comptables ou technologiques qui leur sont proposés pour verdir leur mode de vie. Et donc les uns comme les autres se retrouvent sur l'idée que l'écologie, oui, mais de façon raisonnable, de façon équilibrée. Sinon, on devient dogmatique.
L'écologie, mais pas trop, pour reprendre le titre de votre livre, Jean-Baptiste Combi. Vous êtes notre invité cet après-midi. On vous retrouve dans un instant avec les messages pour vous sur franceinter.fr.
En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. En ce moment, je suis un peu ailleurs. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Je sais pas, j'ai la haine des keufs et de l'état. Je suis comme le guetteur, je le crie sur tous les toits. J'ai les deux majeurs en l'air. Je suis un peu à l'étroit quand je leur mets les doigts. J'ai kiffé la mise et sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos bien mérité. Sauna, jacuzzi, massage suédois. J'ai fait des bons, des mauvais choix. Mais j'ai toujours été droit. J'ai pas grandi dans le velours ni la soie. Donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je m'y assoie. Au moins une fois, ça va de soi. On avait du sale, il faut qu'on se nettoie. Combien de fois je me suis niqué la voile et poumons et le foie. Je m'arrache à LA dans les hauteurs, la piscine déborde sur les bâtiments. J'ai levé les yeux vers les étoiles car la terre n'a plus rien de fascinant. J'ai beaucoup péché facilement, je me repens, je me méfie du châtiment. Avec moi c'est tout ou rien, 0 ou 100%, j'aime pas les quasiment. En ce moment je suis un peu ailleurs, maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats, mais bon on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux, l'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu, j'essaie de faire de mon mieux. Ah ouais, il veut me faire des histoires, il veut me toiser le frère. D'une manière ou d'une autre, je reviendrai te faire, on va croiser le fer. Je sors de chez Louis Vuitton, la petite voix dans ma tête me dit c'est un peu cher. La deuxième lui dit on en a fait du chemin, moi j'en suis pas peu fier. J'ai pas toujours été honnête, mais je suis toujours franc du collier. Puis l'époque des petits écoliers, puis l'époque des petits écoliers, puis l'époque des petits écoliers, je veux l'argent pétrolier, des patrons des tauliers. Mais pour y arriver, beaucoup d'équations et de points à relier. Je me la zaza, c'est mon dada. T'es mon pull, c'est un Prada. J'ai déjà qui feront nada. J'ai déjà qui feront nada. J'sais pas qui va me laisser tomber. J'sais pas non plus qui va m'arrêter. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Ça inquiète celle qui m'a allaité. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux.
En ce moment, je suis un peu ailleurs.
Ailleurs, c'était Josman sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
On est dans ce moment où on est en train de sentir que les questions écologiques deviennent l'équivalent des questions politiques d'autrefois, c'est-à-dire celles sur lesquelles il est légitime et intéressant de disputer, mais les appartenances ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire les associations de... Et c'est ça l'arrivée d'une nouvelle classe. Alors c'est pas classe tellement au sens traditionnel des classes sociales, disons d'inspiration marxiste, mais c'est des classes au sens des classes de culture au fond. C'est-à-dire de se dire, mais il y a bien un moment où la question écologique va devenir centrale. Et ça va définir les associations entre amis et ennemis.
La voix du sociologue Bruno Latour en 2021 sur Arte. Jean-Baptiste Combi est avec nous, sociologue vous-même, représentant de la bourgeoisie culturelle, hein, si je vous reprends par rapport à ce que vous nous disiez, et cet ouvrage « Écolo mais pas trop, les classes sociales face à l'enjeu environnemental ». Bruno Latour ne parlait pas des classes au sens marxiste, de la lutte des classes, il préférait parler de la lutte des classements. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Baptiste Combi ?
Ça m'évoque... Tout d'abord, vous avez qualifié Bruno Latour de sociologue. En fait, il était effectivement au départ de sa carrière sociologue, mais il était à la fin de sa carrière philosophe. Et on ne peut que regretter qu'il ait abandonné les études de terrain, les études empiriques, qui l'auraient sans doute amené à penser les choses différemment. Parce que oui, il y a des luttes de classement. Oui, effectivement, l'écologie nous oblige à renverser toutes les hiérarchies sociales. C'est-à-dire, notamment la hiérarchie des savoirs. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les sciences sociales, la sociologie, prennent le pouvoir sur les économistes, par exemple, ou les économistes mainstream. Bon, donc il faut renverser tout ça, et ça en fait, c'est là que se situe la lutte, c'est-à-dire pour comment redéfinir les hiérarchies aux principes du monde social. Et Bruno Latour, quand il a parlé de classe écologique, il a réussi quelque chose d'assez formidable, un sacré tour de force, c'est-à-dire de parler de classe en dépouillant ce concept de toute son histoire, de toute son armature théorique et empirique, c'est-à-dire en invisibilisant les conflits sociaux derrière l'écologie et le monde social. Et donc, Bruno Latour, finalement, quand on y regarde de près, j'ai un collègue qui est aussi un éditeur, qui s'appelle Franck Poupeau, qui regarde de près, qui fait une sociologie de Bruno Latour, il montre à quel point il était contre la sociologie, antisociale. C'est-à-dire que son point de vue était aérien.
Ah oui, vous n'allez pas de main morte, ouais. Quand même.
C'est malheureusement, il suffit de regarder son appareillage de référence, en fait, il s'appuie sur aucun des travaux en sociologie. Voilà. Donc, quand on est sociologue, la sociologie, c'est une démarche scientifique. Hein,
Pourtant, il avait une démarche qui était quand même très intéressante, parce qu'il parlait lui aussi des limites planétaires, par exemple. C'est-à-dire qu'il disait bien que la lutte devait être celle de toutes les classes pour justement respecter les limites planétaires, et c'est bien ça dont il s'agit quand même aujourd'hui.
Oui, mais Bruno Latour a eu un succès médiatique et politique important, il est très influent notamment dans un parti comme Europe Écologie Les Verts, et il pose un diagnostic qui est profondément antisociologique. Il dit « les idées mènent le monde ». Il dit « il suffirait de savoir, de connaître, de faire prendre conscience pour que les gens se mettent en mouvement et se mobilisent
». Vous
ce
vous
que montrent les sciences sociales, c'est pas du tout comme ça que ça marche.
C'est quoi? C'est la science qui mène le monde?
Non, c'est, en fait, c'est les pratiques qui mènent aux idées. C'est les conditions d'existence dans lesquelles on vit, c'est ce que l'on vit au quotidien qui façonne nos idées.
Et donc c'est leur étude? C'est l'étude des pratiques.
Oui, oui. Et de la façon dont les pratiques et les conditions matérielles dans lesquelles on vit, comment cela façonne nos points de vue, nos visions du monde.
Donc il était trop penseur, au fond, plus que pragmatique et, et concret.
Il lui manquait des enquêtes de terrain, des enquêtes méthodiques, voilà, avec de la réflexivité, en s'appuyant sur l'état de l'art. Enfin,
pas inintéressant. On peut avoir besoin aussi de la pensée d'un philosophe pour avancer, non?
Oui, bien sûr. Oui,
on va pas jeter non plus complètement Bruno Latour.
On a justement là-dessus un message de Fabien qui vient d'arriver sur franceinter.fr. J'ai provoqué mon propre déclassement social volontaire pour devenir agriculteur et post-pétrole, agriculteur post-pétrole, paysan. Mais ma culture d'origine, classe moyenne, professeur, artiste, est toujours présente et je vois tous les jours le poids que pèse une culture de classe. Donc Fabien nous dit, préparer tous les gens bien intentionnés qui souhaitent venir participer aussi à la vie agricole serait une priorité. C'est exactement ce que vous dites.
Ah ben complètement, merci Fabien. C'est une belle illustration des thèses que je défends dans le livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne nous prépare à faire ce que Fabien fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y arrivent, et je consacre un chapitre à ces personnes qui ont effectivement réussi à aligner leur pratique avec leur idée. Donc, ça peut paraître contradictoire à ce que je viens de dire, mais non, il y en a qui y arrivent, mais dans des conditions sociales très spécifiques. Et souvent, en fait, ces gens-là, ça va être les néo-ruraux, etc., ils ont une grande visibilité médiatique. Et du coup, ça donne l'impression que c'est accessible à tout le monde. En fait, quand on regarde de plus près, c'est très compliqué. Il le dit d'ailleurs. Et quand on les écoute, ils disent que c'est des cheminements, des processus très lents, très longs, qui demandent de se détacher de tout un tas de réflexes et de goûts, de comportements qu'on avait intériorisés et qu'il faut, ce qu'on appelle des contre-socialisations. Il faut se défaire de ça. Et ça, c'est très compliqué. Et alors, c'est possible. C'est ce que j'appelle la frange politisée de la petite bourgeoisie culturelle, donc des gens qui s'intègrent essentiellement à travers la valorisation de ressources culturelles et qui sont politisés. Et souvent, c'est des démarches qui se font collectivement. Donc, c'est possible. Mmh. Ça montre que l'emprise du capitalisme sur nos vies n'est pas une fatalité. Mais voilà, et l'intérêt des études qui portent sur ces militants-là, les études de Sylvie Olitreau, que vous avez reçues il y a peu de temps, ou de ma collègue Geneviève Privot, est de comprendre que, en fait, ces gens-là nous montrent en creux à quel point notre société ne nous prépare pas à vivre comme il faut, comme ils le font.
Sauf que Jean-Baptiste Combi, un exemple comme ça, est-ce que ça permettrait vraiment de développer une écologie profondément transformatrice, précisément à l'échelle entière de la société?
Non.
Est-ce que c'est suffisant ou pas?
Non, mais on peut en tirer des enseignements. Ça peut nous indiquer justement quelles sont les difficultés qui se posent pour la majorité des Français, et pas que, parce que je reviendrai sans doute sur la dimension aussi internationale de ces enjeux, la majorité des Français à pouvoir accéder à ces conditions de vie, pouvoir faire ces choix de réorientation professionnelle qui visent il faut complètement redéfinir, transformer son mode de vie. Ça implique souvent un déménagement, un changement de profession, et ça, c'est pas...
Oui, vous parlez de petite bourgeoisie, donc ça veut dire effectivement, c'est des gens qui ont quand même... Des moyens qui ne subissent pas non plus.
Ouais, exactement.
Oui, parce qu'on a justement Charlotte qui nous écrit aussi, la plupart de la population ne peut pas suivre la transition pour des raisons de système de vie et de possibilités. Prenez l'exemple de mères isolées, de personnes pauvres qui ne peuvent donc que s'occuper de leurs profondes problématiques et comme on dit souvent, la fin du mois avant la fin du monde.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'il faut transformer? Et c'est là où je pense que l'écologie est dans une impasse et qu'elle n'a pas encore bien mis le doigt sur ce qu'il faut transformer. Généralement, elle cherche à transformer les mentalités, Bruno Latour, transformer donc les comportements, les individus, ou transformer les techniques de production et de consommation.
Bon. Et vous dites que c'est complètement râpé et qu'en ce moment, au contraire, c'est plutôt sujet à critique.
Voilà, c'est-à-dire que la société, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas une addition d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. La société, c'est des relations qui sont structurées par des rapports de pouvoir. Et c'est ces rapports de pouvoir qu'il faut transformer si on veut permettre à beaucoup plus de personnes d'adhérer, mais même sans en avoir l'air. C'est un peu comme Jourdain qui fait de la prose sans en avoir l'air. D'adhérer à un mode de vie et à une vie collective et individuelle ajustée aux limites planétaires.
Et en embarquant précisément celles et ceux qui sont encore sur le bord de la route de l'écologie aujourd'hui, quand même, c'est ce que vous dites.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut, il faut agir sur toutes les instances d'évaluation, les épreuves de sélection, toutes les logiques concurrentielles qui...
On parlera de l'éducation tout à l'heure, par exemple.
Qui imprègnent la matrice de nos relations sociales. C'est ça qu'il faut défaire. C'est-à-dire que les écolos sont très forts pour savoir ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire autrement, et c'est très important. Ouais. Ça apporte vraiment une crédibilité qu'il n'y avait pas. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans que j'étudie l'écologisation de l'ordre social. Le grand progrès, c'est qu'il y a Il y a 10-15 ans, on disait que oui, mais vous n'avez rien d'autre à proposer. Aujourd'hui, ils ont des choses concrètes à proposer, des choses tangibles. Et ça, c'est très fort.
Vous parlez de qui, pardon, quand vous dites les écolos? Qui précisément vous parlez du parti politique, vous parlez des gens qui sont écolos dans la société, mais à partir de quoi? Les militants, les associations, les ONG?
Oui, plutôt les militants ou les sympathisants, ou des personnes qui font de l'écologie un enjeu de reconnaissance sociale. Voilà. C'est-à-dire qui font, pour lesquels l'écologie c'est un totem que l'on brandit en disant c'est important, moi je veux donner du sens à ma vie, etc. Donc c'est ça les écolos selon moi, et tout ça c'est très bien, ils progressent, ils avancent, simplement effectivement ils peinent à embarquer le reste de la population, parce que le reste de la population est pris par des logiques sociales qui les maintient à distance de ce qu'ils proposent. Donc il faut agir sur ces logiques sociales qui...
Jean-Baptiste Combi, pour ceux qui nous rejoindraient là, à l'instant, c'est quoi le modèle de l'écologie dominante actuellement en place? C'est toujours ce modèle de la croissance verte, justement?
Oui, alors c'est le modèle de la croissance verte, c'est donc toutes les politiques qui misent sur l'innovation technologique, sur l'incitation fiscale, par exemple. Et c'est surtout, l'écologie dominante, c'est surtout une écologie qui avance au rythme, enfin qui avance progressivement et qui est sectorisé. Alors que on a quand même le GIEC qui appelle à des changements systémiques
radicaux,
d'une ampleur inédite.
Et rapide.
L'IPBES, pareil, des changements structurels d'une ampleur inédite. Et donc systémique. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du secteur pas secteur. Non, c'est l'ensemble des structures sociales qu'il faut redéfinir.
Écolo, mais pas trop. C'est votre ouvrage, Jean-Baptiste Combi. On se retrouve dans un instant pour en discuter avec d'autres messages pour vous.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et je vous emmène dans les Pyrénées-Orientales. Alors, pas pour vous parler de la sécheresse historique qui frappe le département, ni du projet de golf au sud de Perpignan, non, ça c'est déjà fait, mais d'un événement prévu mardi prochain, le 7 mai, j'ai nommé le Yum Tour. Yum, 2LUM, c'est un fournisseur local d'électricité verte qui va illuminer une quinzaine de tours à signaux, vous savez, ces tours médiévales qui servaient à prévenir au loin qu'il se passait quelque chose en s'allumant. Bon, sauf que là, pas de torches qui brûlent, mais des méga-projecteurs. Détail avec David Jenner, fondateur de Yum.
Ce sont des projecteurs de type de discothèque ou d'événements festifs comme on peut avoir dans les festivals ou les Jeux Olympiques. C'est des faisceaux LED qui vont jusqu'à 1 km de portée. On met 6 projecteurs par tour de 500 watts chacun. Donc ça consomme un peu moins que 2 friteuses dans un restaurant.
Voilà, 1 km de portée, mais peu de consommation énergétique mise en avant. Le dossier de presse parle d'une technologie à faible impact écologique.
On croirait presque une blague.
Diane Sorel est conservatrice de la réserve naturelle de la Massane, dont une tour va être dans le spectacle. Elle n'a été prévenue que jeudi et elle a bondi.
C'est sidérant de voir qu'un tel projet d'une telle ampleur puisse voir le jour en espace naturel. Et encore plus quand on est sur une réserve naturelle nationale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en plein printemps.
Voilà, dépité parce que l'événement et la pollution lumineuse qu'il va engendrer aura forcément des impacts selon elle, même s'il ne dure qu'une heure d'après l'organisation.
Les impacts sur la biodiversité, il y en aura. C'est certain. Mais ça, ce sera effectivement difficile à documenter. Par contre, il y a déjà des études qui ont démontré les impacts de ce type d'installation. Et c'est pour ça qu'elles sont déjà interdites par la loi.
Et oui, un arrêté du 27 décembre 2018 stipule justement, face au risque de faire fuir des espèces en train de nicher, par exemple, que, je cite, « les installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique. Cyril Calvet, directeur du Festival d'astronomie de Totavel, autre tour concerné, n'est pas content lui non plus.
On sait que ce type d'éclairage, bah de toute manière, il va être balancé dans les pires heures, c'est-à-dire en début de nuit. Donc je ne comprends pas bien, on n'a pas été concerté, enfin voilà.
Pas concerté non plus, mais David Jenner de Yum est droit dans ses bottes.
Ça fait 6 mois que nous travaillons de concert avec la préfecture. J'ai l'autorisation de toutes les communes, j'ai l'autorisation de la préfecture. J'ai les autorisations de la DGAC.
Alors, j'ai appelé la préfecture des Pyrénées-Orientales plusieurs fois ce matin et la préfecture me dit clairement ne pas avoir donné d'autorisation à ce jour. Je les ai encore eu là tout à l'heure à 14h01. Question en tout cas qui est au centre de tout. Hein, le dispositif a-t-il un flux lumineux supérieur à 100 000 lumens, ce que la loi interdit donc?
J'ai pas regardé le nombre de lumens que ça fait exactement. Je sais pas, mais si vous me laissez le temps d'aller chercher, je vous donnerai exactement les lumens.
Bon, alors ça, c'était à 9h ce matin et je n'ai plus eu de réponse depuis malgré une relance. En tout cas, le dossier de presse encore vante un événement spectaculaire, visible où qu'on se trouve sur le territoire. Tous les habitants auront ainsi l'opportunité d'admirer ce show depuis chez eux, en pleine nature, en bord de mer ou même confortablement installés dans leur véhicule à la manière d'un drive-in. Donc la lumière, bah, a priori, on va la voir bien bien.
Non mais moi j'en rigole aussi nerveusement.
Alors là c'est Sébastien Vauclair qui est à l'origine de la réserve de ciel étoilé du Pic du Midi dans les Pyrénées et qui dirige Dark Sky Lab, un bureau d'études qui accompagne les collectivités pour qu'elles réduisent la pollution lumineuse. Et devinez quoi ?
On est missionné par le parc naturel régional des Pyrénées catalanes pour engager tout un travail d'analyse scientifique, technique de la pollution lumineuse pour deux objectifs, l'obtention d'un label de réserve internationale de ciel étoilé et de faire ce qu'il faut pour restaurer ce qu'on appelle la trame noire, c'est-à-dire des corridors écologiques, etc. Et donc le jour même où j'ai été notifié de ce projet par le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, c'est le jour même où on a vu la communication sur cet événement exactement dans ce territoire.
Quatre tours seront illuminées dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes.
On nous dit de lever les yeux au ciel, quoi. Sauf que lever les yeux au ciel pour voir quoi ? Pour voir de la lumière artificielle.
LOL, pourrait-on ajouter le tout. Surtout pour faire un coup de pub, disent les opposants qui ont lancé une pétition en ligne. Mais David Jenner se défend. Tendez quand même bien l'oreille au tout début de sa phrase.
Ce n'est pas qu'un coup de, c'est pas un coup de publicité. C'est une communication du cœur, je pense aussi. Je pense que l'impact lumineux de Paris, Lyon, Montpellier est beaucoup plus important tous les soirs que l'impact lumineux que l'on va faire sur 15 tours pour faire vivre un patrimoine, pour faire vivre un département sur son histoire.
Mettre en valeur le patrimoine au milieu donc de parcs régionaux et de réserves naturelles, en se servant aussi au passage du passage à venir de la flamme olympique dans le coin. Il y a le logo et la carte du parcours de la flamme sur le dossier de presse. Et le comité olympique aurait lancé, lui, un recours parce qu'il n'a pas donné son accord. Enfin, dernier point sur les nuisances avancées par Diane Sorel de la réserve naturelle de la Massane.
L'héliporteur m'a contacté pour connaître la réglementation et m'annonce qu'il y aura 3 rotations d'hélicoptères pour déposer un générateur de 700 kilos et puis 2 salves supplémentaires pour déposer du matériel lumineux.
Le tout sur une pelouse qui vient d'être restaurée grâce au plan de relance France Nation Verte. Yeah.
L'utilisation de l'hélicoptère, c'est pour les filmer principalement. Et il y a une seule tour, la tour d'Elphare, où il y aura peut-être un hélicoptère parce qu'il n'y a pas de piste avoisinante.
Voilà, beaucoup de monde, y compris en off, hein, j'en ai eu plein, parce qu'il y a aussi des enjeux politiques locaux et beaucoup n'ont pas voulu s'afficher. Donc beaucoup demandent l'annulation de l'événement.
Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. On ne peut plus se permettre de tels projets.
Voilà, et tout ça pour vanter l'électricité verte.
Hein. Exactement.
Merci beaucoup Camille Cronier, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Jean-Baptiste Combi, ils disent avec ironie lanceurs d'alerte, parce qu'ils ne se voient pas non plus comme des lanceurs d'alerte, mais on va dire les opposants au projet, disent on n'est pas non plus là pour être les rabat-joie, parce qu'il y a effectivement plein de gens qui adoreraient voir ce spectacle, mais il y a un moment, il faut aussi dire les choses, et c'est hors la loi a priori, en tout cas si c'est bien au-dessus des 100 000 lumens. Comment on gère cette espèce de côté rabat-joie qu'ont les écolos aussi ?
C'est vrai que l'écologie nous oblige à des renoncements et que voilà, c'est pas évident. Mais ce que m'évoque aussi votre chronique, c'est quelque chose qui se déroule non pas dans les Pyrénées-Orientales mais dans les Pyrénées-Atlantiques. Plutôt occidental, dans le petit village où vit mon frangin, ou pas loin de là où j'ai grandi, et où il y a un conflit qui se met en place par rapport aux panneaux photovoltaïques. En fait, ce qui se passe en ce moment avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, c'est que l'État et le photovoltaïque est en train de mettre le feu aux campagnes. C'est-à-dire que des villages qui vivaient paisiblement se retrouvent dans des conflits cinglants. Il y a le village où lui vit, mais il y en a d'autres.
Au nom de la transition écologique.
Au nom de la transition écologique, c'était dramatique. Parce que, alors, on a certes là un maire post-rupture méticuleux des procédures de concertation publique, ce qui rajoute de l'huile sur le feu. Mais on a surtout des campagnes qui se divisent entre ceux qui disent « Ah ben tiens, je vais me faire de l'argent avec ces panneaux photovoltaïques » et ceux qui disent « Mais c'est une hérésie écologique. D'une part, ça va avoir des conséquences très néfastes sur la biodiversité localement, sur la capacité de produire sur ces terres arables. Mais en plus, le photovoltaïque, comme tout un tas d'autres dispositifs de l'écologie dominante, fait des ravages écologiques à l'autre bout de la planète. Mmh. Puisque tous ces minéraux, enfin ces choses qui sont bien connues, ça entraîne ce qu'on appelle l'extractivisme sous des formes de colonialisme vert, comme le dirait mon
collègue. Oui, mais comment on peut entendre ça quand on veut faire des efforts aussi pour aider précisément la planète et on se dit, je vais faire mettre un panneau parce que ça, c'est de l'énergie propre, a priori.
A priori, mais en fait non. Ouais.
C'est-à-dire que mais c'est ça qui est compliqué du point aujourd'hui.
C'est propre, et c'est pour ça qu'il faut penser la question environnementale de façon systématique. Il ne faut pas juste regarder gaz à effet de serre d'un côté, biodiversité de l'autre. Il faut penser les deux ensemble. Là, en l'occurrence, ce type de solution permet certes de réduire, et encore. C'est pas si évident. Peut-être les émissions de gaz à effet de serre, mais en termes de biodiversité, c'est catastrophique.
Bon, en tout cas, dans les Pyrénées-Orientales, c'est un divertissement, donc le problème ne se pose pas.
Allez, vous restez avec nous, Jean-Baptiste Combi, on se retrouve dans un instant.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remember thing, for you live to regret that. Now you go front on me.
C'était Yaya Bey à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Moi, à la base, je m'en foutais un peu. Les questions climatiques, c'était pas trop mon problème. Je pense que c'est important, comme beaucoup de jeunes, là d'où je viens, c'était une question économique. Jusqu'à ce que je réalise que je peux pas mettre les darons à l'abri dans un monde qui est en train de crever. Là, on est à Cergy et on fait la troisième promo de Banlieue Climat avec Acteurs de ta réussite, qui a mobilisé une vingtaine de jeunes.
et c'est incroyable, ils sont beaucoup trop chauds. Ça me fait trop plaisir que le climat, l'écologie, ça les chauffe comme ça.
La voix de Feriz Barkat, cofondateur de l'association Banlieue Climat sur Brut l'année dernière. Nous sommes avec Jean-Baptiste Combi, sociologue, avec cet ouvrage Écolo, mais pas trop, les classes sociales face à l'enjeu environnemental. Comment justement, Jean-Baptiste Combi, fait-on pour construire une véritable écologie politique transformatrice et qui embarque toutes celles et ceux qui sont habituellement mis à l'écart de ces questions?
Bon, c'est intéressant que vous preniez l'exemple de Feriz Barkat et du travail qu'ils font avec le banlieue climat dans les quartiers populaires, puisque ce qu'on a observé, c'est que l'écologie, finalement, telle qu'elle se présente dans les milieux populaires, ouais, crée de la division, crée du clivage, crée
du rejet.
Et maintenant, en plus, du rejet. À ce sujet, les Gilets jaunes nous avaient alertés, hein, il y a 5 ans maintenant, 5 ans et demi, sur le fait que l'écologie, ça continue comme ça, en fait, ça ne va pas le faire. À ce moment-là, ils n'étaient pas anti-écolo, mais on peut faire l'hypothèse que ces gens-là, aujourd'hui, sont ceux qui votent contre l'écologie.
Avec la taxe carbone, hein, qui a vu une faux poudre à ce moment-là.
Et donc, en fait, la première des choses, c'est, à mon avis, avant de pouvoir embarquer tout le monde, de mener un travail politique en profondeur pour résorber les fractures, les fragmentations qui structurent les classes populaires.
Ok, donc ça c'est bien sur le papier, comment vous faites?
Eh bien, on fait de la politique. On fait de la politique, on met en place des politiques sociales, on redonne de la fierté aux métiers qui sont majoritaires dans ces territoires, et on fait en sorte que les classes populaires sont marquées par un souci de respectabilité. Ce qui leur importe, c'est la dignité, la fierté, et d'être respecté et respectable. Et aujourd'hui, la respectabilité avec l'écologie est devenue un enjeu de conflit au sein des classes populaire, là où elle devrait être un enjeu de solidarité de classe.
On a justement Jean-Claude qui nous écrit « Pour arriver à quelque chose, il faut faire de la politique, sinon on restera des doux rêveurs et rien ne se fera. » Et Bénédicte ajoute toujours sur franceinter.fr « De mon point de vue, il nous manque un récit collectif qui nous permettait de nous projeter tous ensemble de manière collective dans un mode de vie qui soit plus écologique, parce que de manière individuelle, les gens de toute classe sociale ont du mal à se projeter. Les uns, à savoir les bourgeois, parce qu'il faut renoncer à des acquis, et les autres, les plus pauvres, parce qu'il faut renoncer au rêve de pouvoir un jour accéder à ces 10 acquis. C'est ça le problème ?
Oui, ça fait partie du problème. Alors, je ne pense pas qu'un récit fédérateur soit la solution, puisque des récits et des imaginaires désirables, on en a à l'appel depuis 25 ans.
Donc ça marche plus.
Ça n'a rien fait changer.
Oui, mais le décalage que soulève Bénédicte, en l'occurrence, entre les bourgeois, effectivement, qui doivent renoncer à une forme de confort, de matérialisme, etc., et ceux qui voudraient y accéder et qui ne vont pas y avoir droit, c'est compliqué, ça, quand même.
Oui, mais il faut faire...
même à l'échelle mondiale, d'ailleurs.
Hein, oui, bien sûr. Mais alors, bon, déjà, il faut nuancer le fait que tout le monde n'aspire pas à vivre comme Carlos Ghosn. Hein, voilà, y a beaucoup de gens qui trouvent ça complètement
superficiel. Vous faites un extrême, Carlos Ghosn. Je veux dire, il y a des gens qui aspirent à vivre.
Ou même, en fait, par exemple,
je commence avec le SUV. Hein, j'étais plus modeste, mais bon.
Mais voilà, mais effectivement, tout le monde n'aspire pas à avoir un SUV, y compris dans les classes populaires. Ce qui caractérise les classes populaires, c'est ce qu'on a qualifié avec mon collègue Adrien Mallier, avec qui j'ai travaillé sur cette question-là, qui a fait une thèse lui là-dessus, spécifiquement, de ce qu'on a qualifié de réalisme modeste. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont réalistes sur le fait que leur responsabilité dans les problèmes environnementaux, elle est minime. Mmh. Ils ont bien conscience que le problème, c'est les gros pollueurs, les grands patrons, les grands pays, les grands chefs d'État, etc. Donc, il y a là quelque chose, il y a quelque chose à travailler politiquement pour créer de la contestation. Et faire une écologie populaire, c'est d'abord faire une écologie qui conteste l'ordre social.
Qu'est-ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout? C'est quoi la contestation, alors?
C'est contester un monde social où on n'est valorisé, où on n'est jugé et estimé socialement que parce qu'on a réussi matériellement.
Mais est-ce que ça veut dire saboter un pipeline, par exemple ?
Non. Effectivement, alors il y a ce géographe influent dans les mouvements écologistes, André Asman, qui a écrit ce livre qui a eu un grand succès, « Comment saboter un pipeline ?». Moi, j'ai envie de dire, l'enjeu, il est plutôt de comment saboter justement toutes ces logiques qui font qu'on s'intègre dans la société par la réussite matérielle. Toutes ces logiques qui font qu'on est toujours mis en concurrence les uns avec les autres. Toutes ces logiques qui font qu'on est évalué, qu'on est sélectionné.
Donc, il faudrait saboter Parcoursup, par exemple, et pas le pipeline.
Parcoursup, les groupes par niveau, les évaluations, l'économiste Laurent Éloi en parlait lorsqu'il est venu...
Éloi Laurent, pardon.
Dans votre émission.
Oui, mais comment on structure alors la société s'il n'y a plus aucun cadre pour le coup?
Tout reste à réinventer, tout reste à réimaginer.
Ouais, mais alors là, vous repartez dans le récit, donc...
À inventer collectivement, en travaillant politiquement. Je pense qu'il y a des choses... Justement, c'est l'apport des alternatives écologiques, d'expérimenter, de préfigurer tout ça. Vous avez... vous faites venir régulièrement à cette antenne des intellectuels passionnants. Je pense à Tim Jackson, hein, qui a écrit Prospérer sans, la prospérité sans croissance.
Économiste,
qui est un économiste britannique. Ou un autre économiste avec Cédric Durand, avec Rasmus Tuchin, sur comment bifurquer. Ces gens-là sont très intéressants parce qu'ils formalisent justement la société du monde d'après.
Donc ça reste de la théorie quand même, beaucoup. Mais
pour moi, le problème, c'est qu'ils loupent une étape, c'est le collègue, c'est comment en fait on transforme pour faire advenir cette société qui apporte des réponses à vos
questions. Donc le chantier, là, si je comprends bien pour vous, c'est repolitiser la société et les classes populaires par exemple. Donc ça, c'est un chantier énormissime, Jean-Baptiste Combi, alors même qu'on voit en ce moment qu'il y a une dépolitisation de la société et que les gens ne vont plus voter même beaucoup.
Alors, dépolitisation au sens de vote, mais les gens ne sont pas moins préoccupés par ce qui se passe dans la vie politique. Les gilets jaunes, ils sont survenus à un moment donné où personne ne les attendait. Donc, je serai prudent sur la notion de dépolitisation. Par contre, c'est vrai que, et c'est un enjeu fort de ce livre, c'est pour ça que j'espère qu'il va se vendre le mieux possible, c'est de, justement, il faut
déplacer...
Vous
voyez, vous avez déjà un esprit capitaliste. Ah, alors.
C'est vrai. Et c'est pour la bonne cause. Pour déplacer... en tout cas, l'enjeu, c'est de déplacer le regard sur l'écologie. Moi, je n'ai pas de solution clé en main. C'est pas mon job.
Vous reprochez aux théoriciens d'être trop dans la théorie, et finalement, quand on vous pose la question, vous dites « moi, j'ai pas de solution non plus, c'est pas mon job ».
Non, mais par contre, je propose un changement radical dans les manières de penser et de faire l'écologie. Et je pense que c'est nécessaire. Et de là émergeront des solutions.
C'est ce que font vos camarades aussi. Hein.
Oui, parce que c'est comment on change de manière radicale la manière de penser et faire l'écologie, comme vous venez de le dire.
On raisonne en termes de stratégie d'alliance de classe, par exemple. On refait de la politique.
Mais concrètement,
à l'état
donnez-nous des exemples.
Vous parlez
là.
De la scolarité, par exemple, l'institution scolaire. On donne des exemples concrets. Oui. Vous dites qu'il faut réformer en priorité, par exemple, l'institution scolaire.
Oui, on en a parlé. Une institution scolaire qui, dès le plus jeune âge, nous familiarise, nous acculture à la concurrence, à la performance, à l'excellence, à l'évaluation, à la sélection. Ça, c'est ça met en nous des manières de voir et de penser qui nous éloignent de ce que doit être une société écologique.
Donc après, on va sur le monde du travail, logiquement.
Le monde du travail, pareil. Quelles sont la hiérarchie des métiers, donc la hiérarchie des salaires, quel temps on consacre dans une vie au travail, etc. Là aussi, il y a tout à revoir. Mais ce que je pense important, c'est de raisonner vraiment en termes d'alliance sociale, c'est-à-dire de réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire un projet politique dont l'idée n'est pas tant de faire une alliance sociale écologiste, mais une alliance sociale pour l'écologie, c'est-à-dire comment, parce qu'on ne va pas y arriver de suite.
Ouais, mais comment les bourgeois et les classes populaires arrivent à se rencontrer, en fait, c'est ça que ça veut
en
dire
tout cas,
aussi.
Comme je le raconte un peu dans le livre, pour faire simple, on peut dire que le monde social, il a deux grands versants, un versant culturel, un versant économique. Sur le versant culturel, c'est là où effectivement il y a le plus d'appétence pour l'écologie. Et donc des gens qui pourraient faire alliance avec les classes populaires, qui elles sont les plus vulnérables face à l'écologie. Or aujourd'hui, c'est pas ce qu'on observe. Les écolos du versant culturel, ils peinent à comprendre et à agir et à construire un projet politique qui puisse parler aux classes populaires, les classes populaires qui sont les plus principales victimes.
Vous dites que la lutte des classes dans les milieux écolos, c'est très discuté, hein. Ça crée beaucoup de crispations c'est une notion qui divise beaucoup.
Gilles nous écrit « La classe ouvrière qui se tourne de plus en plus vers l'extrême droite est-elle porteuse d'espoir pour l'écologie ?» Point d'interrogation, c'est une question. Il vous demande si c'est porteur d'espoir que la classe ouvrière se tourne de plus en plus vers l'extrême droite.
Ah ben non, c'est pas porteur d'espoir, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. C'est le résultat de cette écologie qui en fait se tire une balle dans le pied et qui amène des gens qui sont... En plus, ces personnes-là...
Et donc il y a un mouvement inverse à ce que vous dites, en fait. Donc,
quand vous parliez du rejet, c'est ça dont il s'agit aussi.
Oui, mais c'est-à-dire que ces personnes-là, quand on les écoute, elles sont sensibles à la dégradation du vivant. Elles peuvent même adopter certains éco-gestes. Il n'y a pas de problème. Par contre, elles sont exacerbées par cette écologie qui malmène...
Exaspérées.
Excusez-moi. Elles sont exaspérées par cette écologie qui les malmène socialement, qui disqualifie leur manière d'être au monde. Et du coup, ils en viennent, effectivement, parce que dans le vote RN, il y a aussi une partie de ce vote qui est motivée par un rejet des élites progressistes, bien-pensantes, etc. Et aujourd'hui, les totems du progressisme, que sont le féminisme, l'écologie, etc., deviennent un carburant du vote RN. En tout cas, c'est une hypothèse forte que l'on peut poser.
Jean-Baptiste Combi, l'invité cet après-midi de la Terre au Carré.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité.
quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu? Quand tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras, où es-tu? Quand tu es dans mes bras,
je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire, une vente vorace due au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire, avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Je m'enfuis.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je m'enfuis.
Tu ne penses qu'à toi?
Je m'enfuis.
Tout seul tu finiras.
Je m'enfuis.
Quand tu es dans mes bras,
je m'enfuis.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je m'enfuis.
Tu ne penses qu'à toi?
Je m'enfuis. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire.
Bernard Lavillier, Nicoletta, Idée Noire, à l'instant sur France Inter, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Jean-Baptiste Combi, quand vous regardez la société aujourd'hui et ce qu'il reste à faire pour transformer en profondeur justement l'écologie, est-ce que vous aussi vous avez les idées noires ou pas? Ou vous êtes confiant sur l'avenir, sincèrement? Parce que on s'aperçoit quand même que le chantier est monumental et qu'on n'y est pas du tout. Hein. Au contraire, on est même dans une séquence de recul aujourd'hui par rapport à ces questions.
On a parlé de Pierre Bourdieu au début de l'émission. Je démarre le livre avec cette phrase qu'il a et qui, je trouve, est une phrase pleine d'espoir. Il dit que le monde social a fait, armé du savoir sociologique, il peut le défaire. Et pour ça, je pense que j'aimerais imaginer le rapport de force, la tournure que prendrait le rapport de force dans notre société si tous les écolos de ce pays passaient plus de temps à se forger une culture de la critique sociale. Et c'est d'ailleurs pourquoi, avec mon camarade Anthony Poliquin, qui est un militant politique redoutable, on a décidé aussi de faire une conférence gestitulée qui accompagne le livre pour essayer de rendre accessible au plus grand nombre des outils de compréhension de ce qui se joue en matière de
Oui, parce que vous êtes quand même sur des notions de philosophie, de sociologie, oui, qui peuvent aussi mettre une certaine partie de la population de côté quand même.
Oui, ça fait presque élitiste presque à vous entendre.
Donc vous allez gesticuler pour nous l'expliquer.
Et donc on gesticule, voilà. Et donc le lien est sur la page de l'émission. Je vous remercie de l'avoir mis. Parce qu'effectivement, dans cette conférence gesticulée, on rend accessible, on illustre. Et Anthony, quand on préparait l'émission, n'a cessé pendant des heures et des heures, quand on préparait la conférence, de me dire ok, très bien. Et comment tu dis ça simplement? Et comment tu dis ça simplement? Et il avait raison. Et vous voyez bien, et vos auditeurs et auditrices ont pu l'entendre. J'ai encore des progrès à faire. mais j'espère que. Voilà, le gros
et ce sera où cette conférence gesticulée?
Alors, elle est accessible en ligne et puis on la joue.
Mais alors, à chaque fois je vous dis un truc concret, mais est-ce que vous pouvez on verra pas les auditeurs?
Vous pourriez gesticuler pour nous.
Gesticuler, ouais, s'il vous plaît, un petit exemple.
Qu'est-ce que ça va donner?
Alors, en fait, il faut pas prendre le mot gesticulation au pied de la lettre.
C'est pas
plus
forcément
une expression qui a été inventée par Franck Lepage il y a quelques années maintenant. En fait, la conférence gesticulée, il s'agit de tresser, de faire un Scooby-Doo, comme le raconte bien Anthony. Tu tresses trois fils, le fil des savoirs chauds, nos histoires de vie. Donc, je raconte mon histoire de vie aussi. et je m'objective moi-même dans cette conférence gesticulée, et Anthony aussi, et puis qu'on va tresser avec des savoirs chauds, des savoirs froids, pardon, donc les savoirs issus des sciences sociales, et puis un troisième fil qui est le fil scénique, voilà, où on parle de Georges Pernoud notamment.
Et donc, vous proposerez ça en ligne, avec une date déjà qui est
alors,
fixée.
Elle est en ligne, elle est accessible, hein, sur le site, le lien est sur le site de l'émission. Et puis, on joue dans divers endroits régulièrement. On l'a joué déjà une vingtaine de fois en plus d'un an.
Et ça, ça pourrait nous permettre de réinventer l'éducation politique, selon vous ?
Je ne sais pas, mais... je pense que ça peut être un ingrédient, peut-être. En tout cas, essayer de convaincre les militants écolos, peut-être de rejoindre aussi des organisations politiques de transformation sociale. Voilà, pour que souvent les gens me disent mais que faire, ben rejoignez des syndicats de transformation sociale, rejoignez des organisations politiques, des partis politiques,
c'est ça le message,
qui cherche à transformer pas juste en surface la société pour la verdir, mais en transformant en profondeur notre société pour la rendre écologique et qu'on soit écologique sans en avoir l'air.
Eh bien, bon courage Jean-Baptiste Combi dans votre démarche. En tout cas, votre pensée est à lire dans ce livre Écolo, mais pas trop, les classe sociale face à l'enjeu environnemental, c'est aux éditions Raison d'agir. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Un grand merci. Et merci à toute l'équipe.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain ?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour ?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord. Et on vote quand ?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter,
première radio de France.
Demain, on parlera de la nature.